Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Alexis Bertuca, donc ingénieur en tourisme durable. Vous allez nous parler du groupe Territoires de Provence. Et puis, on va revenir évidemment sur Olivier Bosson et son parcours, parce que tout le monde l'a connu plus ou moins dans le fait qu'il ait créé l'Occitane en 1976. Voilà, donc bienvenue.
Et, merci.
Je vous laisse nous faire redécouvrir qui est Olivier Bosson.
Donc, merci pour l'invitation. Donc, Olivier Bosson, aujourd'hui, c'est le président du groupe Territoires de Provence pour lequel je travaille. Moi, en tant que directeur de la communication, du tourisme et de la RSE, Olivier Bosson, il aimerait revendiquer en tout cas qu'il est basalpin. Il a grandi dans le village de Ganagobi. C'est quelqu'un qui est effectivement est connu dans notre région, notamment au début pour avoir été pion aussi dans plusieurs lycées, dont à Manosque. Parce que quand vous parlez avec des anciens aujourd'hui, ils vous diront, par exemple, un ami à nous, François-Xavier Emery, qui est un photographe que nous adorons, vous dira, avant d'être le fondateur de l'Occitane, Olivier Bosson, c'était mon pion, donc mon surveillant. Donc il y a cet attachement, bien sûr, et cette connaissance en fait, des Basses-Alpes. Je dis Basses-Alpes dans le bon sens du terme, hein, puisque c'est vraiment quelque chose que nous revendiquons, on est basalpin. Et effectivement, Olivier a créé l'Occitane en 1976, donc une aventure humaine qui a été assez folle, donc autour d'un alambic qu'il avait racheté et une distillation de romarin en fait, sauvage grâce à sa vieille alambic. Tout de suite, l'Occitane a rencontré du succès, j'allais dire, parce qu'ils l'ont structuré avec une petite poignée au départ de salariés qui l'ont entouré. Et l'Occitane a vite grandi. Elle a été d'abord à Mannes, puis à Volx, puis à Manosque, et revendue il y a presque une trentaine d'années aujourd'hui à une autre famille. Aujourd'hui, l'Occitane, c'est un grand groupe international avec plusieurs sites de production, mais toujours un très beau site à Manosque, qui se visite d'ailleurs. Et Olivier Bosson, voilà, au départ, ça a été ce porteur de l'Occitane. Et s'il l'a porté aussi loin, c'est parce qu'il était attaché aux filières agricoles. Ça a été d'abord le romarin sauvage, mais puis la lavande, puis l'immortel en Corse, qu'il a totalement implanté. Et quelque chose qui paraît aujourd'hui plutôt courant, mais le karité qui n'existait pas du tout en Occident et qui n'existait qu'au Burkina Faso, et qu'il a découvert passionnément, et où il a découvert aussi qu'en fait c'était les femmes qu'il cultivait là-bas. Et en co-développement, il a créé en fait des coopératives sur place qui ont permis en fait d'exploiter ce karité et le faire connaître au public occidental, notamment les clients de l'Occitane. Et aujourd'hui, c'est quand même plus de 3000 personnes qui vivent du karité au Burkina Faso, notamment des femmes. Et ça reste un des best-sellers de vente d'ailleurs de l'Occitane, la petite crème karité, la petite crème main. Il s'en vend une toutes les 3 secondes dans le monde. Donc,
on ne connaît que le beurre de karité, c'est ce qu'on appelle le beurre de karité.
Mais c'est ça,
en France, oui.
C'est ça, c'est ce beurre qui va être intégré en fait à une crème main ou à une autre crème d'ailleurs. Et donc c'est lui qui a toujours eu cet esprit aussi de découverte, à la fois de ce qui se faisait par le passé et comment le rendre actuel ou comment s'en servir pour que ça ait un impact positif. Voilà pour Olivier, mais je peux continuer parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais donc sur Olivier, je l'appelle Olivier parce que c'est aussi un ami, en plus d'être le président du groupe Territoire de Provence. Il a créé d'autres entreprises. Donc quand il a cédé l'Occitane en Provence, il a été passionné par l'Olivier, le bien nommé puisqu'il s'appelle Olivier. Il a fait un voyage autour de la Méditerranée avec des photographes, à la rencontre à la fois de la culture, à tous les sens du terme, la culture bien sûr agronomique, agroécologique on va dire, de l'arbre, mais aussi la culture autour de l'olivier qui est un symbole dans les religions monothéistes, un symbole aussi bien sûr cosmétique, plein de choses. Et il est rentré en France avec une idée, mais il faut essayer d'expliquer ce que c'est que cette civilisation de l'olivier. Donc il a créé du coup un écomusée qui est à Volx aujourd'hui, l'écomusée L'Olivier de Volx, un ancien four à chaux qui a été transformé en plusieurs choses, puisque ce fut une usine de l'Occitane, mais Aujourd'hui, c'est un écomusée, un des seuls d'ailleurs consacré à l'olivier en région sud. Et cet écomusée, il a été aussi, en fait, il a porté une marque qui a été Olivier & Co, qu'il a créé et qui était, dont le siège de production était à Man, c'est toujours le cas. Une très très belle entreprise qui a fonctionné avec l'impulsion d'Olivier et de tous les collaborateurs bien entendu, et qui a été revendue ensuite à son oncle, qui a été revendue depuis. Mais pour vous dire qu'il y a toujours eu d'abord une passion autour d'un arbre ou d'une culture à tous les sens du terme, et de le rendre accessible, de beaucoup s'y intéresser, parce que c'est un homme qui est avide de connaître, d'apprendre. Donc il faut voyager, il faut lire, il faut, voilà, c'est quand même un littéraire. Donc il y a cette notion en fait d'apprentissage avant d'en parler. Et une fois qu'on a compris certaines choses, parce qu'on ne comprend jamais tout, peut-être le rendre accessible à travers un lieu, un musée par exemple, l'écomusée Olivier, et ensuite à travers des boutiques. Aujourd'hui, c'est bien le cas, hein, puisque aujourd'hui, le groupe Territoire de Provence, c'est 6 grandes marques. Pour l'huile d'olive, puisque j'en étais là, ça serait les épiceries fines Brémont-Fils, qui sont une épicerie fine de Provence et de Méditerranée. C'est aujourd'hui une vingtaine de boutiques en France, dont une à Paris, 16 boutiques en Norvège, qui s'appellent Oliven Lunden, là-bas. Ça, c'est... oui, ça fait toujours sourire la Norvège. Pourquoi la Norvège? Mais parce qu'il y a des Norvégiens qui ont adoré le concept, et en tout cas l'idée, il y a une vingtaine d'années en tout cas, autour de l'huile d'olive qu'avait développé Olivier Bossan. Et du coup, ces boutiques, notamment, ont participé à l'apprentissage des Norvégiens de ce que c'est qu'une huile d'olive, puisqu'ils n'avaient pas vraiment ça, à la fois dans leur production locale, c'est évident, mais même dans leur culture gastronomique. Donc ces boutiques y ont largement contribué. Donc Olivier, c'est toujours voilà, cet attachement à des filières, l'huile d'olive. On a eu l'opportunité en 2014 de racheter la confiserie du Roi René à Aix-en-Provence, qui est une très très belle entreprise, plus que centenaire aujourd'hui, EPV, c'est-à-dire entreprise du patrimoine vivant. Et la troisième génération de cette entreprise ne voulait vendre qu'à un Provençal. Donc il se trouve que Olivier s'est présenté, et en tout cas ils se sont rapprochés, le groupe a pu racheter cette entreprise et porter un projet de relance de l'amande, puisque vous le savez, pour faire un calisson, il faut de l'amande, du melon confit et du sucre. Et que l'amande à l'époque, eh bien, il y en avait très très peu en Provence. Aujourd'hui, là je suis avec vous à Digne, il y en a bien sûr sur le plateau de Valençol, mais il y en avait très peu quand même pour l'entièreté, puisque c'est à peu près 40 000 tonnes consommées par an d'amandes. Et en 2014, il y avait à peu près 300 tonnes de production. Donc ce que nous a demandé Olivier avec un collectif, toujours, hein, puisqu'on ne fait jamais rien tout seul, c'est de travailler à un projet de relance. Ce qu'on a fait avec André Pinatel, avec la Chambre d'agriculture régionale, avec d'autres belles entreprises locales, l'Occitane et d'autres, on s'est mis en commun, on a rencontré les agriculteurs, parce que ça, c'était la priorité, pour connaître en fait quelle était leur réalité de terrain. Et leur réalité de terrain, c'était que le marché était trusté par les Américains. C'est 80% des amandes du monde qui viennent de Californie.
Oui.
Avec un coût de revient qui n'a rien à voir avec nous, avec des superficies qui n'ont rien à voir avec nous, et avec une qualité qui n'a rien à voir avec nous. Du coup, l'objectif, c'était de se connaître, de se rencontrer. Pour faire simple, une amande américaine, disons que ça coûte 4 euros. Le coût de production en France, juste pour produire, c'est déjà 8. Donc, si vous achetez le prix américain, ben, personne ne va planter d'amandier. Donc, ce qu'on a fait dans le collectif, hein, j'insiste, c'est-à-dire pas que nous, mais vraiment un collectif autour de ce plan de relance de l'amande, c'est qu'on a annoncé des prix d'achat qui tenaient compte, en fait, du prix de revient en France. Donc, décorrélé du prix du marché. Et ça change tout, en fait, puisque l'agriculteur, il se dit « je pourrais en vivre ». Donc, comme on a assuré une transformation possible avec d'autres, hein, de 300 tonnes de production en 2014, on est passé à 1500 tonnes. Donc, on a quand même multiplié la production locale, ce qui permet aujourd'hui, par exemple, à la confiserie du Roi René, de proposer un calisson 100% amande de Provence. Ça, ce qui était impossible il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a une collection 100% amande de Provence. Si vous allez chez Brémont-Fils, nos pralines sont 100% amande de Provence. Elles viennent de chez Pinatel à côté, enfin, je dirais à côté, excusez-moi, parce que je suis à Digne, mais de la famille Pinatel qui est au Mai. Donc, c'était ça, en fait, aussi. Ce projet, c'est toujours comme ça qu'on crée les entreprises. Je dis on parce que j'y participe, mais c'est quand même Olivier Bossan qui porte le projet, je veux dire. Et ça a été le cas pour la pistache, puisque vous m'aviez aussi invité pour la pistache.
Oui, parce que j'ai appris très récemment l'histoire de plantation de pistaches, parce que en fonction du climat, du réchauffement climatique, le pistachier serait un arbre qui résiste à 45 degrés, c'est ça?
Oui, facile, oui.
À la chaleur et aussi au froid.
Exactement. Nous, c'est un arbre, on s'est intéressé à cet arbre grâce au Roi-Rogner, parce que dans le nougat de Provence, donc je vous ai parlé de Calisson, mais on fait aussi du nougat, on est nougatier depuis 1920. Et dans le nougat de Provence, blanc ou noir traditionnellement, il y a des amandes, du miel bien entendu, de Provence s'il vous plaît, de la lavande IGP Provence ou toute faire Provence, et des pistaches. Donc s'il y a des pistaches, c'est que les anciens, il y avait des pistachiers en Provence. Il y a aussi le pistachier dans la crèche, peut-être que vous le savez, donc s'il est là dans la culture populaire, c'est qu'il y a quelque chose. Donc il devait y avoir une trace agronomique. Donc on s'est dit, il y a dû avoir des pistachiers. Pourquoi ils ont disparu? Ça c'est multifactoriel, on pourra en reparler. Donc Olivier, il s'est dit, mais ce pistachier, d'où il vient aujourd'hui? Où est-ce qu'on le cultive? Et il est parti avec André Pinatel, encore lui. Je voulais dire que je parle que des Pinatel, mais c'est toujours les créations d'entreprises ou de filières, c'est beaucoup une histoire d'amitié aussi et qui dure avec le temps. Ils sont partis en Tunisie en 2017. Ils ont rencontré un agronome qui s'appelle Fadel, qui est un spécialiste vraiment, qui a fait sa thèse sur la pistache. Et là, ils ont découvert que c'était effectivement, comme vous l'avez dit, adapté en tout cas au sol pas très riche, sec, très forte chaleur. Le froid aussi, il a même besoin de froid. Donc en rentrant en France, Olivier Bossan s'est dit, mais cet arbre pourrait être adapté chez nous aussi, au dérèglement climatique en tout cas. Il pourrait être une des idées de diversification agricole, je vais pas dire mettez que du pistachier, mais puisqu'on a des problèmes des fois sur la lavande, puisqu'on quand même, on le sait, ou sur d'autres cultures, ça peut être la cerise.
Les amandes sont aussi fragiles, enfin, non, au niveau de la culture.
Les amandes ou les pistaches?
Les amandes.
Les amandes, la culture, ben c'est, je,
c'est pas évident.
Ça reste, de toute façon, j'étais ce matin avec des partenaires oléiculteurs sur le plateau de l'Ensemble, mais qui font aussi des amandes. Être agriculteur, c'est être confronté aux aléas climatiques. Quoi. Le dérèglement l'accentue, mais c'est les aléas. Ça peut être le gel sur les fleurs en hiver, pour la sortie de l'hiver pour les amandiers. Ça peut être la pluie d'avril, ce qui s'est fait cette année sur les fleurs de pistachier, donc qui ont lessivé les fleurs, du coup la pollinisation ne s'est pas bien faite. Ça peut être l'extrême sécheresse qu'il a fait juste après, puisqu'en mai-juin on a eu très très chaud, pour rappeler à tout le monde. Donc du coup ça accélère, ou ça fait sécher, ça grille les fruits. C'est aujourd'hui être agriculteur, c'est quand même, bon, ça a toujours été le cas, mais il faut être très courageux, très résilient, s'adapter. Donc c'est quand même, c'est des gens qui sont admirables sur beaucoup de points de vue. Et du coup, ils doivent s'adapter. Donc nous, ce qu'on leur propose à notre petit niveau, parce qu'on reste à notre place, mais c'est qu'on a cru très tôt que le pistachier pourrait être une des réponses. Il y en a d'autres, le jujubier, la grenadier, enfin voilà, ça on peut regarder. Et très vite, en fait, ce qu'on a fait, c'est que nous, on est juste transformateurs, on connaît bien les filières agricoles, mais nous ne sommes pas agriculteurs. Et très vite, il y a eu deux agriculteurs avec nous, donc Jean-Louis Joseph et Giorgia Lambertin, qui sont du Vaucluse. Et eux deux, c'était vraiment des pionniers, c'est-à-dire qu'ils avaient, eux aussi, de leur côté, s'étaient intéressés à la pistache, étaient allés dans des pays de production de pistache, avaient commencé à planter chez eux, à prendre des risques. Et tous ensemble... tous les cinq, puisque donc c'était Giorgia Lambertin, Jean-Louis Joseph, André Pignatel, Olivier Bossan et moi. On a, et Patrick Bricot, puisqu'il était là à cette époque-là, pardon, c'est bien de rappeler. On a créé l'association Pistache en Provence en 2018. Moi, j'en assure le secrétariat général et Olivier Bossan, la présidence. Et cette association, très vite, en fait, l'objectif, c'était déjà faire la promotion d'une filière, mais déjà collecter des données, puisqu'on n'en avait pas. Il n'y avait plus de culture, hein. Il y avait pas une dizaine d'hectares, mais qui étaient disséminés, et souvent des vergers plutôt conservatoires. Donc recollecter de la donnée, faire des tests, etc. Ce qui a été exceptionnel, c'est que derrière cette filière, il y avait déjà des gens qui avaient relancé des filières. C'est-à-dire Olivier Bossan avec André Pinatel, en 96, le plan Olive, ensuite 2014, le plan Amande avec moi, et du coup, il y avait déjà eu des effets de preuve. Donc la première réunion publique qu'on a faite sur la pistache, à Vénasc, on pensait qu'il y aurait quelques je sais pas, dizaines de personnes. Il y avait plus de 100 personnes et que des agriculteurs. Des gens qui étaient là avec des questions très sérieuses, très techniques. Donc on avait fait venir notre ami ingénieur agronome tunisien. Et en fait, on a tout de suite été pris par l'attrait, en fait, en tout cas l'engouement des agriculteurs dans un premier lieu pour cette filière. Et on l'a très vite structuré, puisque en 2018, on crée l'association. En 2021, on a créé une interprofession qui s'appelle France Pistache. Et France Pistache, aujourd'hui, réunit vraiment des professionnels, transformateurs ou agriculteurs. Il y a plus de 130 adhérents. Et c'est elle, France Pistache, qui a été reconnue par la région Sud, qui porte aussi un projet d'IGP futur, qui fait les études techniques. Ce qui a été formidable, enfin, vous le disant, en n'étant pas agriculteur, c'est la technicité qu'on a apportée aux agriculteurs avec des itinéraires techniques d'irrigation de taille, partager aussi les échecs. Parce que c'est ça aussi la réussite, je pense, collective. Par exemple, avec mon association, on avait acheté des pistachiers sur un porte-greffe qui s'appelle Atlantica. Il est tellement rustique qu'il ne pousse pas très longtemps. Enfin, très longtemps, mais il met du temps, pardon. Pour un agriculteur, ce n'est pas possible. Il a besoin que quelque chose rentre en production assez vite. Donc aujourd'hui, tout n'est pas rose parce que c'est une filière agricole. Donc il y a des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Mais en tout cas, la force du collectif fait qu'on est passé de 0 à 500 hectares en quelques années, quoi.
Alexis Bertouka, donc merci de nous apporter tous ces éléments. Donc le projet de plantation de pistaches, c'est en cours, c'est déjà bien avancé.
C'est bien avancé, ouais, c'était quelques hectares en 2018. Aujourd'hui, le département des Alpes-de-Provence et le Vaucluse sont les premiers de France. Je préfère dire le nôtre de département, parce que notre objectif, mais pour rire, hein, c'est que Valensole, en plus d'être la capitale, bien sûr, de la lavande ou du lavandin, devienne la capitale de la pistache en France. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques agriculteurs du plateau qui ont vraiment joué le jeu, en tout cas du test de diversification. Ils en ont planté plus d'une trentaine d'hectares. Et moi qui suis Pierre Verdan, juste à côté de Pierre Vert, sur la commune de Montfuron, il y a un partenaire qui en a planté 45 hectares. Le plus grand verger de France aujourd'hui, il y croit fortement et nous aussi, on y croit avec lui, bien entendu. Donc aujourd'hui, un des objectifs que nous portons aussi avec les pouvoirs publics, j'espère, c'est qu'on diversifie en fait l'image des Alpes-de-Haute-Provence. On a un département en termes de filière agricole qui est fantastique, c'est certain. Hein, on a des oliviers, du blé dur, des truffes, bien sûr du lavandin, de la sauge, enfin. C'est du vin, bien sûr. Excusez-moi, j'habite à Pierrevert, donc si je dis pas du vin, ça ne fait rien. Mais on se dit qu'avec la pistache, ça peut aussi être un facteur différenciant. C'est pour ça qu'on a créé la Maison de la Pistache à Valensole en juillet 2024, donc une nouvelle entreprise au sein du groupe Territoire de Provence. Et donc c'est une entreprise qui est déjà ouverte au public quasiment toute l'année, avec un verger de collection pour montrer ce que c'est que cet arbre. Parce que la plupart des gens, et moi-même avant 2018, je ne savais pas ce que c'était comme arbre, en tout cas en culture. Donc on a un verger de collection avec une vingtaine de variétés qui bordent en fait le bâtiment, qui permet déjà aux gens, avant de rentrer dans le bâtiment, de comprendre ce que c'est au niveau végétal, et notamment que c'est dioïque. Alors c'est un mot compliqué.
Ça veut dire quoi?
C'est un mot qui veut dire en fait qu'il est genré, l'arbre pistachier, puisqu'il est soit mâle, soit femelle, pas les deux. Ce qui arrive assez souvent, hein, quand même dans le végétal, mais il faut le savoir.
Et ça a pour conséquence quoi?
Conséquence que le mâle, son seul rôle, c'est de polliniser les femelles. Donc dans un champ, il faudra que vous mettiez un mâle pour 6, 7, ça dépend la configuration de votre verger, mais 7 femelles derrière qui vont porter les fruits. Ça exige aussi en fait qu'il y ait une synchronisation entre les fleurs, entre la fleur mâle et la fleur femelle. Ça aussi, c'est vraiment un objet aussi de recherche parce que c'est pas parce que ça pousse, je sais pas, en Tunisie, en Turquie, en Iran ou ailleurs, que chez nous, ils auront exactement la même floraison au bon moment. Donc, on est encore dans les phases tests. Mais en tout cas, les gens peuvent passer. Là, si vous allez à Valensole aujourd'hui, vous verrez les fruits qui sont en train d'arriver à maturité dans notre verger. Et on voit que c'est la famille de l'Anacardiacée, c'est-à-dire de la mangue. Et en fait, la pistache, c'est recouvert par une petite peau qui est rougeâtre, ou jaunâtre à des moments, ça dépend aussi des variétés, qui est très belle. Et cette peau, elle protège la coque. Et à maturité, la maturité arrive chez nous, maintenant on le sait, en septembre, on va dire, début septembre jusqu'à fin septembre, début octobre. Et la particularité de ce fruit, c'est qu'il est déhiscent, c'est-à-dire que la graine qui est à l'intérieur de la coque, quand elle est à maturité, elle va grossir au tel point qu'elle va ouvrir la coque, casser la coque. C'est pour ça qu'on dit que les pistaches sourient au Moyen-Orient,
Ah oui.
puisqu'en fait, elles ont ce clic et elles sourient. Du coup, c'est là où on va pouvoir les récolter en septembre. Ce qu'on a fait, nous, on a récolté sur notre verger l'année dernière et j'ai récolté sur un autre verger d'un partenaire à Valensole. C'est un arbre très résineux. Ça se récolte à la main avec des gants et vous avez vraiment cette odeur de résine. Parce que c'est vraiment. Vous connaissez peut-être en fait un des pistachiers qui s'appelle le pistachier lentisque. C'est un pistachier qui est dans le Var plutôt chez nous. Et c'est un pistachier qui est présent sur tout le pourtour méditerranéen et notamment sur l'île de Chios, qui est une île grecque en face de la Turquie. Il est très connu ce pistachier chez eux parce qu'ils en prennent la résine pour en faire un mastic. Donc c'est cet aspect résineux quoi. Ce mastic, nous d'ailleurs, on l'achète, le mastic de Chios, pour l'intégrer dans une de nos glaces. Parce que ça donne ce côté voilà résineux du lentisque. Juste, j'ai oublié de vous dire, mais que quand même chez nous, on a un pistachier, pas endémique, mais un pistachier qui existe, c'est le pistachier térébenthe. Le pistachier térébenthe, c'est celui que vous voyez en fait en colline. C'est un pistachier qui n'est pas très haut, hein, qui va être plutôt un arbuste. Et qui est très beau avec les baies sont très rouges, donc il est très visible. Une fois que vous en aurez vu un, vous le verrez tout le temps, et il y en a partout. Moi qui habite à Pierrevert, il y en a plein dans la colline de Corbières, il y en a à Volx, il y en a d'ailleurs chez moi aussi. Et donc c'est un pistachier qui a donné l'essence de térébenthine comme nom. Aujourd'hui, c'est un pistachier qu'on apprécie parce qu'il va servir de porte-greffe pour ensuite greffer des variétés étrangères chez nous. Donc notamment chez Jean-Louis Joseph, il a un porte-greffe térébenthe, donc localement adapté, enfin, en tout cas nous l'espérons, puisqu'ils viennent chez nous. Et dessus, on va greffer par exemple une variété qui s'appelle Pontikis. C'est une variété qui vient de Grèce. Et chez lui, ça a des résultats qui sont assez exceptionnels, puisque cette variété grecque à l'origine, ben, n'est plus grecque. Elle est maintenant du Luberon, puisque lui il est dans le Luberon. Elle a un goût tout à fait différent de la Pontikis grecque d'origine. Et c'est le terroir en fait qui va déterminer à terme un goût spécifique des pistaches de Provence ou de France. Nos amis corses, ben, même si on met la même variété, c'est certain qu'elles n'auront pas le même goût. Hein, c'est exactement la même chose que l'olive, le vin, etc. C'est ça qui va être étonnant dans les années futures, c'est de découvrir en fait ben, les différences de terroir et du coup et aussi de méthodes agronomiques qui vont permettre d'avoir des goûts très différenciés.
Mais c'est passionnant tout ça.
Merci.
C'est passionnant. Alors, j'ai envie de revenir sur cette maison de la pistache qui était donc ouverte en juillet 2024. C'est comme un musée ou
C'est plutôt comme un écrin, une vitrine, un lieu où on veut expliquer la diversité de la pistache. Donc c'est un lieu, c'est une immense boutique.
On peut y acheter des
On
produits
peut y acheter des produits. Alors d'abord, c'est pour nous une zone de production. Alors ça, c'est important que je le rappelle parce que d'abord, nous, on est producteurs. On a des ateliers qui fabriquent des biscuits à Forcalquier, des caramels à Manne, des chocolats, des pâtes de fruits, des pâtes à tartiner à Bannon, des calissons, etc. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est être en lien direct avec les filières agricoles, notamment des partenaires identifiés qui sont pour la plupart des amis. On achète des matières premières, on les transforme dans nos ateliers. Et ensuite, notre force aujourd'hui, c'est de savoir les revendre, puisqu'on a un réseau plus d'une cinquantaine de boutiques aujourd'hui en France et à l'étranger sous différentes marques, hein, que ce soit Leroy René, Bray-Mon Fils notamment. Ça, c'est une force. Et puisque vous m'avez posé la question sur Olivier Bossan, c'est sa force. Enfin, pardon, je vais pas dire sa force, mais sa compétence. C'est-à-dire qu'il, sur la base d'une matière première qui l'a passionné, vraiment, il va arriver à concevoir un packaging et un univers de boutique adapté. En tout cas, moi, que je trouve adapté. Et du coup, ça, c'est notre force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on produit, on achète et qu'on sait vendre ce produit, on sait mieux en parler, me semble-t-il. Pour la maison de la pistache dont vous parliez, c'est avant tout aussi un atelier de production de glace artisanale. Une glace qui est assez exceptionnelle parce qu'on a la chance d'avoir un partenaire qui nous fournit du lait des Hautes-Alpes. Du lait entier. Donc la base est exceptionnelle en termes de proximité et de qualité. Et ce lait, on va le transformer en glace et on vous proposera dans toutes les boutiques Maison de la Pistache 4 glaces à la pistache. Et ça, c'est vraiment une différenciation que nous voulions avoir, c'est-à-dire une glace à la pistache d'origine. Par exemple, vous venez chez nous, vous aurez une pistache. Pardon. Pistache. Vous en aurez plein des pistaches parce qu'on a une multitude de pistaches à vous proposer, mais une glace à la pistache de Sicile. Mais vraiment avec une purée de pistache de Sicile d'origine. Et ensuite, qu'on va vous proposer à la dégustation une autre tout à fait différente qui est anatolienne, donc qui vient, on va dire, de Turquie. avec une base de pistache Mawardi où on va vous proposer quelque chose de totalement différent. Une libanaise, on va dire, ou avec de la fleur d'oranger et des éclats de pistache caramélisés et du mastic, vous allez avoir un autre goût. Et ma préférée, c'est pour ça que je finis par elle, c'est une pistache sauvage. Ça, c'est vraiment une découverte. On vous propose en boutique une toute petite pistache qui est récoltée dans les monts Zagros, donc c'est entre l'Iran et la Turquie, récoltée à la main par les cueilleurs. Donc c'est vraiment une pistache sauvage toute petite qui a un goût assez salé, poivré, épicé, enfin, très étonnant, quoi. Pas la pistache habituelle. Celle-ci, on la propose en glace. Et moi, c'est mon vrai coup de cœur parce que c'est totalement différent de ce que vous connaîtrez ailleurs. Et c'est notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir le fabriquer sur place, mais aussi de l'amener dans les boutiques que nous avons, puisque en cette année, on a ouvert une boutique à Aix, en Provence, rue Thiers. On a ouvert une boutique à Lyon, une à Oslo, à qui je ne fournis pas la glace aujourd'hui. Ça, il faudra qu'ils trouvent
un
autre moyen.
Donc, vous appelez aussi Maison de la Pistache.
Tout à fait. Ouais. Notre objectif aujourd'hui sur le groupe, c'est que cette nouvelle entreprise qu'on a créée à Valensole pour qu'elle soit ancrée dans un territoire, dans un terroir qui est entouré de nos partenaires, elle puisse ensuite rayonner dans des centres-villes, à Aix-en-Provence, à Lyon là, depuis peu, à Paris en septembre si tout va bien, enfin, tout va bien parce que les travaux ont commencé dans la boutique. Et ça, c'est vraiment notre objectif de développement, c'est de se dire que cette maison de la pistache, c'est un univers tellement vaste. Ça fait plus de 3000 ans que le pistachier est cultivé. Hein. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous, ça fait depuis 2018 qu'on travaille. Et à chaque fois qu'on rencontre, que ce soit en Turquie pour ma part ou ailleurs dans le monde, quelqu'un qui vient d'un bassin, en fait, c'est-à-dire de la Perse originelle, en fait, ben c'est passionnant parce qu'en fait, la pistache, elle se mange de plein de façons différentes. Elle est liée à la culture persane, c'est une évidence, mais pas que, sicilienne aussi, arabe aussi, bien sûr française, parce qu'au grand siècle, on a trouvé des recettes sous Louis XIV de pistaches, enfin de plats à base de pistaches. Et donc on s'est dit qu'un lieu dédié, la pistache le méritait. Et ce qui n'existait pas, selon nous, enfin, pas que l'on sache. Donc on a développé la maison de la pistache pour que ce soit un lieu où, quand vous rentrez à l'intérieur, les collègues qui vont vous accueillir puissent, si vous avez le temps, vous expliquer ce que c'est comme culture depuis 3000 ans, que la reine de Saba adorait la pistache. Que...
Ça, c'est un bel argument de vente.
J'aime bien, oui. C'est pour ça qu'on a développé d'ailleurs autour de la reine de Saba une gamme de thé à base de pistache, parce qu'il y a aussi ce côté du Moyen-Orient, de l'hospitalité. Donc quand on va discuter, et ça a été notre cas quand on est parti en Turquie pour comprendre l'univers de la pistache en Turquie, ça fait des millénaires qu'ils en produisent et qu'ils en consomment sur place. Mais avant de parler, d'abord on s'offre un thé, on parle, et c'est cette notion aussi, voilà, d'accueil et de générosité. Donc aujourd'hui, la Maison de la Pistache, il y aura à la fin de l'année 5 boutiques. Et notre objectif en tant que groupe, c'est de porter 2 boutiques par an, si c'est possible, dans les années futures, dans d'autres centres-villes en France ou ailleurs, si on a des opportunités.
Est-ce que c'est un arbre qui pousse vite et qui donne vite des fruits? Puisque vous dites c'est important pour l'agriculteur.
Tout à fait. C'est un arbre, la mise à fruit, on dit plutôt en moyenne 6 ans. C'est-à-dire que vous le plantez, alors ça dépend du sion que vous avez planté, enfin de l'arbre, pardon, mais sion étant un terme de pépiniériste, mais il faut compter 6 ans, mais ça dépend des terroirs. On a des partenaires à Valensole, ils ont planté, et au bout de 4 ans, ils ont une petite récolte. On préfère dire une mise à fruit à 6 ans et une vraie récolte au bout de 10. Mais c'est l'arboriculture, les agriculteurs vous diront, sur l'olivier c'est pareil, sur l'amandier aussi, donc ils ont le temps, ils ont de la patience, ils ont cette patience-là. Par contre, effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, pendant ces années-là, il n'y a pas de récolte, donc il n'y a pas de revenu pour l'agriculteur, donc c'est bien quelque chose de diversification. Mais il y a aussi quand même des aides possibles à aller trouver un peu la plantation. Le Crédit Agricole est quand même partie prenante. Je ne sais pas pour faire la pub pour le Crédit Agricole, mais c'est quand même la banque qui accompagne pas mal d'agriculteurs en tout cas. Donc il y a toujours une possibilité. Donc il faut avoir un peu de temps. Ce qui est intéressant par rapport à votre question d'origine aussi, c'est que c'est un arbre qui va supporter le sec. Donc sur certains endroits, par exemple sur le plateau de Valensole, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Je dirais pas d'irrigation, quoi. Et il y a des gens qui arrivent, la famille Jobert notamment donc Françoise et son fils Alexandre. Tous leurs oliviers, leurs vignes, leurs amandiers sont au sec. Donc pour certaines personnes ou certaines zones de notre région, c'est aussi quand même une alternative. Nous, on a des jeunes adhérents de France Pistache qui sont dans la Dombe provençale, tout au sec. Ça pousse moins vite. Il y aura peut-être un peu de l'alternance. Vous savez, les variétés, enfin, les arbres peuvent alterner. Je sais pas forcément. Mais en tout cas, ça peut être dans des zones où il y aura point d'eau ou moins d'eau, une des cultures possibles.
Alors, juste par curiosité, avec la pistache, donc on peut faire évidemment des pâtisseries, des glaces. Est-ce qu'on peut faire de l'alcool de pistache?
Alors,
ça existe?
Ça existe, pas que je sache, sur le fruit. Mmh. Alors juste, je vais rétropédaler, mais c'est que plus j'avance dans la pistache, enfin dans la connaissance de la pistache, moins j'en sais. Parce que plus vous parlez avec des gens, des Arméniens, des Turcs, des gens de partout, et plus ils nous en apprennent. Donc je ne sais pas. Ce que j'en sais en tout cas, c'est qu'on a un ami à nous, le comptoir de l'alchimiste à Mannes, qui nous a proposé pour la maison de la pistache une liqueur de pistache identique. Donc là, c'est la feuille donc du pistache identique qui vient du Var, qui va être distillée. Et on en fait une liqueur. Et d'ailleurs, moi, j'apprécie assez, plutôt pour cuisiner, mais c'est quelque chose qui est assez résineux, justement. Donc, pour l'instant, sur l'alcool, je ne connais que ça. Mais avec la pistache, ce qui est fou, c'est que vous pouvez vraiment, d'abord, la consommer naturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on invite à découvrir dans nos boutiques, très souvent. Et c'était mon cas aussi. La pistache est une grosse pistache coque apéro qui vient des États-Unis. Il domine le marché du snacking très 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 largement. C'est une grosse pistache très 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 toastée, très salée parce qu'elle n'a pas de goût en fait. Mmh. Et c'est malheureusement devenu notre classique de consommation. Du coup, nous, ce qu'on a découvert, c'est que quand vous juste décortiquez une pistache et qu'elle a juste été séchée naturellement, déjà c'est magnifique. Et ça,
il n'y a pas d'amertume.
Aucune. Mmh. Vraiment, vous venez dans une maison de la pistache, vous demandez aux collègues qui sont en boutique, on voudrait goûter les grands crus. Donc les grands crus de pistache, chez nous, ils ont été sélectionnés à la fois par des origines, ça peut être la Basilicata avec Giuseppe, ça peut être Mariam en Perse avec la Casvine. Donc des origines, des hommes et des femmes, bien sûr, des agriculteurs avec des valeurs qui travaillent ce terroir, et une particularité. Du coup, vous vous demandez en boutique, j'aimerais bien goûter un des grands crus ou plusieurs grands crus en fonction de votre appétence. Et là, vous allez découvrir des goûts totalement différenciés. Mais totalement, ça n'a rien à voir. Il y a des goûts de mangue pour certains, des goûts un peu poivrés, des goûts un peu épicés, un croquant différent. C'est fantastique déjà, naturellement. Donc ça, c'est les grands crus qu'on vous propose. À partir de ces grands crus, on va pouvoir décliner plein d'autres choses. Par exemple, en ce moment, on vous propose une huile de pistache sauvage. Ça, elle est découvrir ça, c'est complètement fou comme produit. Et ensuite, on a eu la chance aussi de rencontrer un partenaire formidable qui s'appelle Raphaël, qui est en Espagne. C'est le premier, c'est un pionnier dans la culture de la pistache en Espagne, puisque ça a été le premier avec son père il y a 40 ans à replanter des pistachiers. Juste, je fais un petit aparté si vous voulez bien. Le pistachier, à l'origine, c'est l'Asie centrale. C'est, on va dire, la Perse, pour faire simple. C'était la très grande Perse, hein, parce que la Perse, c'était pas l'Iran, hein, c'était l'Iran, l'Afghanistan, le Turkménistan, c'était un énorme empire. Et c'est là que ça s'est développé, et développé en culture. Les Perses et les Grecs ont eu des confrontations, c'est assez connu au niveau historique, mais aussi, bien sûr, des mélanges ou du commerce. Et les Grecs ont importé un petit peu plus loin, donc sur le pourtour méditerranéen, le pistachier. Puis les Romains ont pris le relais et les ont amenés, par exemple, en Espagne. C'est pour ça que ça me faisait penser à ça. En Espagne, au 1er siècle, les pistachiers sont arrivés. Et chez nous, ils sont arrivés à l'Antiquité romaine aussi, hein, en Provence. Ils ont disparu au 19e pour des raisons multifactorielles. Tout ça pour vous redire que donc, cet anard qui est vraiment méditerranéen par excellence, comme l'olivier et l'amandier, qu'il a existé sur tout le pourtour. En Espagne, il a disparu comme chez nous, pour des raisons multifactorielles. Ils ont choisi d'autres cultures. Et Raphaël, qui est notre partenaire depuis l'origine de la maison de la pistache, avec son père, ils ont planté des pistachiers il y a 40 ans. Et du coup, lui, aujourd'hui, 40 ans après, il a une expertise qui est certaine. Il vient chez nous, hein, il est venu il y a 3 semaines. Il vient à la journée de la pistache et de l'amande et de l'olive en septembre. Cette année, elle aura lieu le 27, je crois. Venez à Valensole. Et du coup, cet homme-là, avec son expertise, avec sa qualité, bien sûr, de produit, il nous propose une pistache de variété Kerman. C'est une pistache d'origine, en fait, iranienne à l'origine. Kerman, c'est une ville en Iran, à 1700 mètres d'altitude. Et bien, celle-ci, il a produit, du coup, en Espagne. Et il nous propose ce produit que nous, on va transformer en plein d'autres choses. En biscuits, à la biscuit de Forcalquier, on intègre ces éclats de pistache, en calisson aix, en caramel à manne. Et on vous propose, en fait, grâce à cette magnifique pistache d'origine, une diversité de confiseries, de biscuits et de produits salés dans les boutiques. Donc voilà.
Alors, tout ça, c'est fait par le groupe Territoire de Provence. J'ai envie de vous demander par rapport à la foire de la lavande qui va avoir lieu bientôt, est-ce que vous aurez un stand aussi pour parler de ce groupe? Non?
Ici?
Oui.
Ah non, non.
Parce qu'il y a des ateliers, enfin, il y a des
Non,
charcutiers où la
non.
pistache n'est pas mise à l'honneur
Non,
dans...
pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à Maurice Chassepoux, les Mémoires vivantes de Valensole, depuis 4 ans, donc ce sera la 4e année, on organise la journée de la pistache, de l'amande et de l'olive à Valensole. Donc, comme aujourd'hui, déjà, on est tous très amis, donc c'est vraiment une question d'amitié. On met l'accent à ce moment-là. Et c'est une journée qui a justement lieu soit après, soit pendant les récoltes. Je m'explique, c'est une journée qu'on veut des partenaires et des producteurs du plateau. Donc, il va y avoir les gens qui viendront d'avoir, pas encore tout à fait récolté les amandes, mais en tout cas, qui pourront parler de leur production locale. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre sur cette journée. Cette année, je vais regarder mon calendrier, mais je crois, pour pas vous dire n'importe quoi, que ça a lieu le 27, mais je vais vérifier ça tout de suite, puisque c'est toujours le dimanche. C'est un dimanche, et cette année, voilà, bravo, ça sera plutôt le 28.
28 quoi?
28 septembre, dimanche 28 septembre, donc c'est la journée de la pistache, de l'amande et de l'olive à Valensole, donc sur le cours. Et cette année, on change chaque année la filière qui est mise en avant ou mise en lumière. Cette année, ça sera l'amande. Et vous aurez des conférences, des chefs qui viennent cuisiner, que des produits du plateau, ça en incite, ou en tout cas que des produits de producteurs véritables, donc les mouliniers. Il y a bien entendu tout le groupement des oléiculteurs de Haute-Provence. Enfin, franchement, c'est une journée de qualité qui touche à la fois nous, les locaux, puisqu'on y vient en tant que voisins, mais aussi bien sûr les visiteurs qui sont encore sur le territoire. Et c'est une très belle journée qui est organisée par Maurice Chassepoul et son équipe de bénévoles de Mémoire vivante de Valensole.
Donc le dimanche 28 septembre, vous me
Tout à
dites,
fait.
2025.
Oui.
Est-ce qu'on parle de Act for Planet?
Oui, avec plaisir.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, Act for Planet, c'est une association que nous avons créée avec Olivier Bossan en 2019. Bon, en fait, c'était 2018, aussi, une latence. Vous verrez que on fait beaucoup de choses en parallèle, puisque, bien sûr, on avance sur plusieurs fronts en même temps. Olivier Bossan, en fait, il a toujours été convaincu de la nécessité d'un développement durable. Si je le résume à ça, développement durable, c'est être conscient des limites planétaires, même si on ne disait pas ces mots-là à cette époque-là, mais en tout cas conscient des ressources qu'il y a, conscience d'un co-développement nécessaire et de la préservation de l'environnement. Et à un moment, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose de concret en local. Donc on a créé Act for Planet dans ce but-là, et notre première action, donc on a deux objectifs, pardon, c'est protéger la biodiversité ou participer à la protection de la biodiversité, par exemple avec la Ligue de protection des oiseaux. Avec l'AMAPI, donc qui protège leur siège est à Manosque, à la Thomasine. L'AMAPI, c'est une association qui fédère. D'ailleurs, vous avez ici au-dessus de Courbon un très beau rocher de l'AMAPI, qui fédère des acteurs particuliers, je veux dire des gens non professionnels pour la protection de l'abeille noire de Provence. Donc, avec ce genre de personnes, on va les financer, par exemple, leur offrir de l'argent pour créer des ruchers conservatoires dans certaines zones du département ou ailleurs, pour protéger cette abeille, qu'elle ne soit pas mêlée aux abeilles des apiculteurs professionnels, pour qu'elle soit bien protégée, parce que c'est une abeille qui a endémique depuis 2 millions d'années, elle est adaptée à notre territoire. Donc Action Planète a ce volet de biodiversité sur les papillons, sur les oiseaux qui sont des auxiliaires de culture exceptionnels et qui sont beaux tout simplement, donc on peut aussi juste protéger la beauté. Et d'un autre côté, l'agriculture régénérative, c'est-à-dire aider des agriculteurs ou accompagner des agriculteurs ou des méthodes pour avoir une agriculture qui protège le sol notamment, donc qui rendent le sol vivant ou qui maintiennent son vivant. Et un des leviers que nous avions choisi dès l'origine, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est vraiment renouvelé avec une pratique ancestrale en fait, qui existait dans la culture, dans l'agriculture vivrière de partout dans le monde en vrai, puisque c'est vrai dans l'Atlas marocain, c'est vrai partout. C'est-à-dire planter des arbres. Ces arbres, ils permettent quoi ? Peut-être d'avoir des fruits un jour, ça c'est une évidence, mais aussi de fixer du carbone dans le sol, ça les anciens ne savaient pas, mais on le sait aujourd'hui, puisque l'arbre a cette force-là, de structurer le sol grâce à ses racines, donc de casser les roches mères qui sont dessous, de permettre une meilleure infiltration des sols, et on le sait, chez nous on a des gros orages aujourd'hui, quand il n'y a pas d'arbre, ça ravine, ça enlève le sol, et ce sol il finit dans l'eau qui finit dans la mer. Donc ça peut être dramatique. Donc l'agroforesterie pour nous ça a été un des piliers d'action fondamental, notamment autour d'un arbre, le châtaignier. Il faut savoir que dans les Alpes-de-Provence, en fait, nous avons des zones de production de châtaignes, notamment sur le plateau d'Albion, donc au-dessus de Bannon, entre Bannon et Sceaux. Là, en fait, c'est un territoire qui convient, avec l'altitude de 900 mètres d'altitude, un terrain assez acide, au châtaignier. Donc la première action d'Action Planète, ça a été d'offrir des châtaigniers à des agriculteurs partenaires, dont la famille Burcherie, chez qui on a planté plus de 300 châtaigniers. Et on l'a fait comme une action à la fois pour nous et surtout pour nos enfants, puisque très symboliquement, ce sont nos enfants qui ont planté ces arbres et pas nous, puisque ce n'est pas nous qui récolterons les fruits de ces arbres-là, mais plutôt nos enfants, voire nos petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants. Puisque la force du châtaignier, c'est de vivre plusieurs centaines d'années. D'ailleurs, si vous allez sur le plateau d'Albion, vous verrez, il y a des très beaux arbres. Des très beaux arbres, d'ailleurs, qu'on a restaurés cette année. Puisque en plus de l'agroforesterie, planter de nouveaux arbres, ce qu'on peut faire, c'est aussi redonner une nouvelle vie aux anciens arbres. Je m'explique.
Comment ?
Ouais. Sous Napoléon Ier, en fait, il y a eu beaucoup de plantations de châtaigniers sur le plateau d'Albion. Plus de 1000 ont été encore référencés dans une excellente étude qui a été trouvée par Éric Chess, qui est notre ami qui habite à Saint-Étienne-les-Orgues et qui a été coordinateur du Fonds de protection de la lavande. Je le cite parce que il y a des personnes ressources sur le territoire forcément, et Éric en est une. Et du coup, Éric, il nous a trouvé une étude où on recense les 1000 châtaigniers qui étaient présents sur le plateau. Et ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a proposé à la famille Burcherie de financer en fait la taille de ces anciens châtaigniers qui étaient plus du tout exploités ou la forêt était en train de les emprisonner. Et si vous ne le taillez pas, cet arbre, il fait comme tous les autres, il va s'arrêter de produire et il va mourir. Vous le verrez, si vous allez sur le plateau, on voit des lignes de châtaigniers, c'est assez triste qu'ils meurent. Alors que cet arbre-là, si vous le retaillez, il reprend de la vigueur. Et il est reparti pour un cycle. Donc cette année, l'action qu'on a faite en février 25, c'est payer un acrobate qui monte dans les arbres, parce que c'est haut comme arbre, hein. Moi, je n'irai pas avec une tronçonneuse. Il est monté dans les arbres, il en a taillé une vingtaine, et eux, ils sont repartis. Et là, un des objectifs d'année en année, c'est d'essayer, petit à petit, de le faire comme ça, pour que ces anciens arbres qui avaient été oubliés puissent avoir une nouvelle vie et refaire ce qu'ils faisaient très bien, c'est-à-dire refixer du carbone, donner des châtaignes aux agriculteurs pour avoir une autre source de revenus, puisque vous savez que le châtaignier, on en plante, c'est l'arbre à pain. On n'aura jamais faim avec un châtaignier, puisqu'on peut en faire de la farine, on peut le manger dans la soupe, on peut faire de la crème de marron, on peut faire plein de choses avec le châtaignier. Et bien entendu, ah ben non, la feuille de châtaignier sert à enrober le fromage. Donc tout est bon, et même le bois d'ailleurs, hein, c'est un bois très dur. Donc on trouve que ça, c'était... Et ça, c'est quand même une particularité, c'est pas pour parler d'Olivier, mais puisque c'est quand même avec lui qu'on a créé Act4 Planet, c'est se dire, ça existait, ça avait de la valeur, pourquoi ça n'en a plus, est-ce que ça pourrait en avoir aujourd'hui ? Je réduis une pensée qui est plus complexe, mais c'est un peu ça. Et donc sur le châtaignier, on y croit vraiment, sur le plateau d'Albion. Donc l'agriculture régénérative, pour nous, c'est ça par exemple, mais ça a été aussi l'histoire du pistachier. Avec Act4 Planet, moi j'ai acheté 550 pistachiers qu'on a offert à plein de partenaires différents sur tout le pourtour, sur toute la région sud. Des jeunes agriculteurs qui voulaient se lancer à Colobrières, qui n'avaient pas les moyens, on leur a offert une centaine d'arbres. Le conservatoire méditerranéen partagé, on leur a offert une vingtaine d'arbres pour faire des tests, la Thomasine à Manosque. Donc c'est essayer de faire émerger des filières où accompagner des filières dans un objectif d'agriculture qui soit vivante, bien entendu, qui fasse vivre l'agriculteur, ça j'insiste, hein, parce que nous, on donne des leçons à personne, hein, et essayer d'accompagner des pratiques agricoles différentes. Et par exemple, je reviens là du plateau de Valensole, puisque la maison de la pistache est à Valensole. Olivier Bossan avait créé le Fonds de protection de la lavande il y a une douzaine d'années. Il n'en assure plus la présidence aujourd'hui, mais il l'a transmise à quelqu'un de super. Et moi, j'y participe au conseil d'administration sur un projet qui s'appelle Green Lavande. C'est un projet qui se dit que la lavande, elle a des difficultés. Je ne vais pas rentrer dans le sujet de la lavande parce que c'est assez complexe, mais c'est juste qu'une des solutions possibles, j'insiste sur la liberté des choix, c'est le couvert permanent, ou en tout cas temporaire, entre les rangs de lavande. Là, je vais essayer d'être assez clair. Quand l'image d'épinal de la lavande, c'est une très belle raie mauve, rien, une très belle raie mauve, rien. Il se trouve qu'une des possibilités pour lutter contre le dépérissement de la lavande, lutter contre les dérèglements climatiques, les UV qui touchent le sol, c'est peut-être mettre un couvert herbeux, ou un couvert plus que herbeux, puisqu'en fait c'est multivariétal, on fait des légumineuses dedans, et on va le semer à certains moments de l'année, ça va garder de l'humidité au sol, ça va ramener du vivant au sol, et on va le broyer à un moment de l'année. Et ça, c'est un apprentissage qu'on doit faire tous ensemble, puisque l'image que les touristes viennent chercher sur le plateau de Valensole, c'est des raies très très bien rangées. Et en fait, les raies sont toujours bien rangées, mais entre les raies, il peut parfois avoir une légumineuse, quelque chose qui soit différent. Donc ça, c'est l'accompagnement au changement de ça. Et ça, c'est ce que peut faire Actu4 Planet avec les autres, bien sûr, parce que ça, c'est le Fonds de protection de la lavande qui le porte. Nous, on y participe, on apprend. Et ce matin, par exemple, j'en ai parlé à un jeune agriculteur en disant « Et est-ce que tu ne voudrais pas venir participer avec nous à ça ?» Parce que oui, hop, voilà. Et petit à petit, par cette force du collectif et de l'entraînement, on se dit que nos méthodes et notre regard aussi sur certaines choses, parce que c'est le regard qui compte aussi, peuvent changer.
Mais c'est passionnant tout ça, et puis vous pourriez nous en parler pendant 3 heures, j'ai l'impression.
Oui, ben, c'est vrai que...
Vous en parlez très bien, en tout
merci.
Cas. Merci de nous apporter toutes ces lumières sur ces produits et ce territoire riche. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez envie de partager?
Oui, je voulais juste vous partager que d'abord, nous, sur le groupe Territoire, un des axes fondamental, c'est l'ouverture au public. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 8 sites en Provence ouverts au public, quasiment en permanence. Donc c'est le cas de la chocolaterie de Bannon. Vous allez à Bannon, magnifique village, pour ceux qui ne connaissent pas Bannon. Dans notre chocolaterie, vous avez une très très belle boutique en vente directe avec un immense sas vitré qui donne sur des ateliers de production. C'est le cas à la Biscuit de Fort-Calquier, c'est le cas à la Caramérie de Man, c'est le cas pour le Moulin de Roussillon, comme son nom l'indique, à Roussillon, bien sûr au Musée du Calisson à Aix. Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur Territoire de Provence. On a un site internet qui explique ça. Mais pour nous, c'est extrêmement important d'être ouvert au public pour de multiples raisons, mais j'insisterai juste sur 2 choses. Un, expliquer les savoir-faire, c'est-à-dire que que ce soit l'écomusée, le musée du Calisson ou les autres sites, l'objectif c'est de mettre en valeur le savoir-faire de celui qui fait. Si vous allez à la biscuiterie, vous verrez les artisans travailler le biscuit, et comment ils travaillent ce biscuit, on va vous expliquer que la farine elle vient du moulin de Maligé, donc de pas de chez vous du coup, entre nous deux finalement. Que c'est une farine locale, que la famille Pichard, eh bien, c'est une famille qui a un énorme savoir-faire meunier, et que chez nous, nos biscuitiers et biscuitières ont un savoir-faire. Et ça, je vous le dis parce que déjà, quand on est consommateur, moi, c'est mon cas, hein, quand vous avez la chance de voyager, d'aller, je sais pas, en Aveyron, voir comment on fait le couteau, l'aïeul, vous respectez beaucoup plus le couteau que vous avez acheté ensuite parce que vous avez tout le travail qu'il y a derrière. C'est le cas pour chez nous. Donc, les biscuits, les caramels, on comprend mieux. Et c'est aussi une façon de, pour moi en tout cas, et pour nous je pense collectivement, de se dire qu'il y a des beaux métiers manuels, quoi. Et que le marketing c'est bien, il faut des directeurs marketing, on en a un très bien au sein du groupe, on est très, très heureux, mais il y a aussi tous ces métiers de la main, du geste, et nos visites, en tout cas nos collaborateurs qui en font des visites, ce qui peut être mon cas aussi, c'est ça l'objectif, c'est de mettre en valeur ceux qui font avec la main, le geste, et dire aux jeunes, parce qu'on fait beaucoup de visites guidées pour les jeunes. Par exemple, au musée du Calisson, on reçoit entre 1500 et 2000 scolaires par an, ce qui n'est pas rien, tout confondu, hein, les petits, les moyens, les grands, les ingénieurs. Et on leur parle de tous les métiers qu'il y a dans une entreprise, tout le monde est important dans une entreprise, hein, la comptabilité, la maintenance et tout ça. Mais mettre en valeur en fait tous les savoir-faire qui existent au sein d'une entreprise et notamment dans les métiers d'agroalimentaire, ceux qui font le geste. Quand vous allez au musée du calisson, vous verrez les personnes donc, qui façonnent le calisson, on appelle ça les calissonnières, qui façonnent sur des calissonneuses. C'est un geste qui est d'abord magnifique à voir, c'est un balai. Donc ça, j'insiste parce que d'abord, toutes nos visites sont libres et gratuites, vous venez quand vous voulez, c'est ouvert toute l'année. Ça permet de découvrir un patrimoine local, une identité certes, mais aussi des gens, des femmes qui font la valeur dans notre pays. De très belles choses dans notre pays, je veux dire notre territoire à nous, hein, je ne parle pas du pays de la France, je n'ai pas cette prétention, mais ça c'est important. Et j'insisterai aussi le fait que nous, notre implantation, elle est vraiment dans le sud et notamment dans les Alpes-de-Provence avec un développement de l'emploi chez nous. Et je dis parce que comme je suis auprès d'une radio qui est locale, nous on va agrandir le site de Bannon. On est en train de faire des travaux, donc à terme, il y aura de nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent. Ça va être le cas aussi à Fort-Calquier, où on va agrandir la biscuiterie de Fort-Calquier, donc des possibilités d'emploi en région. À terme, notre site de logistique sera à Manosque, d'ici 2 ans, donc je ne suis pas moi l'architecte, donc je ne vais pas vous dire plus, mais d'ici 2 ans, donc c'est aussi... Et ça, c'est vraiment quand même une des fiertés de travailler pour un groupe local, c'est-à-dire créer de l'emploi aussi chez nous. Sur les sites de production, mais aussi en région, puisqu'on a des boutiques dans toute la région sud. Donc ça, voilà, moi, collaborer dans un groupe qui permet de créer de la richesse locale, ou en tout cas de faire vivre au pays, étant un enfant du pays, c'est bien.
Vous êtes né où, à Pierrevert ?
Je suis né à Manosque.
À Manosque.
Non, à Pierrevert, il n'y a pas de maternité. Mais après, je suis... attention, je ne remonte pas à des générations de bas alpins, puisque moi, après, c'est comme... Comme la vie est faite, voilà. Moi, ma mère est venue d'une autre région, mon père aussi, même d'autres pays. Et par contre, quand on est ici et quand on a la chance de naître ici, on y est attaché, ouais.
Alexis Bertuca, merci beaucoup. Et puis, donc, on ira volontiers voir le site qui s'appelle
Territoire de Provence.
Territoire de Provence.
Et vous pouvez aussi aller voir le site Act for Planet. Et de toute façon, ça renverra vers tous les sites de nos entreprises. Parce que, bien sûr, on a des sites marchands. Donc, si vous voulez aller voir, il y a plein de choses. Mais avant tout, Territoire de Provence et Act for Planet, qui sont quand même les piliers de nos entreprises.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée et au plaisir de vous recevoir à nouveau ou d'aller directement faire des reportages dans ces magnifiques endroits dont vous nous avez mis l'eau à la bouche.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.